que lo que fai tú o fachí.
E muoveme la pia.
E tú la pia mía.
Abu, tani no tenga paura.
Et dans l'actualité des idées aujourd'hui, un grand succès littéraire. Elena Ferrante, le phénomène prodigieux. Comment l'auteur italienne de la tétralogie, l'ami prodigieuse, a-t-elle imposé sa marque, sa langue, son style aussi, par-delà les frontières? L'ami prodigieuse est un des grands succès littéraires et éditorial de ces dernières années, avec plus de 10 millions d'exemplaires vendus dans le monde, adaptés en série, disponibles d'ailleurs en France en intégralité sur MyCanal. Un phénomène mondial sans incarnation, puisque l'écrivaine italienne n'a jamais révélé sa véritable identité, ni donnée d'entretien autrement qu'écrit, ni accepter d'ailleurs de recevoir de prix littéraires en main propre, estimant que la réponse est dans ses livres, que son anonymat la rendait libre. À l'occasion de la parution de Frantumalia chez Gallimard, où l'auteur revient à travers lettres et entretiens écrits depuis 91 sur son rapport à l'écriture, sur la place des femmes dans son œuvre, sur les structures inégalitaires et sur sa géographie littéraire, où elle confie enfin certains secrets de fabrication de ses romans. À cette occasion, nous parlons donc de ce phénomène littéraire avec nos invités Jean-Noël Schifano, critique littéraire, traducteur, le premier d'Elena Ferrante en français, directeur littéraire chez Gallimard et auteur d'un dictionnaire amoureux de Naples. Bonjour à vous.
Bonjour.
Merci d'être avec
Bonjour,
nous.
Merci.
Et la romancière Véronique Ovaldé, invitée de la première partie de La Grande Table pour Personne n'a peur des gens qui sourient chez Flammarion, son nouveau roman. De retour aussi comme éditrice chez Albin Michel et restée avec nous. Elle est une lectrice assidue d'Elena Ferrante. Vous l'êtes, est-ce que je peux le dire comme ça? Vous aimez? Vous avez aimé dès le premier
oui, en fait, j'avais
tome
lu
de l'Amie prodigieuse ou déjà
non, j'avais,
avant?
Non, j'avais lu d'autres livres d'elle avant. Et oui, ça m'a toujours beaucoup intéressé ce qu'elle faisait. Mais parce que j'ai l'impression qu'il y a une forme d'immoralité, en fait, chez Elena Ferrante, que je trouve, passionnante.
Immoralité et ouais. Un trouble intérieur, visiblement. C'est en tout cas ce qu'on pourrait croire ou évoquer à travers le titre qui a été donné à ce recueil de lettres et entretiens, Jean-Noël Schifano. Frantumalia, qu'est-ce que c'est être en proie à la Frantumalia?
Ben, des sentiments contraires, être comme des objets jetés un peu au hasard, d'être comme une mosaïque dont les tesselles seraient un peu répandues à droite et à gauche et pas encore rassemblées. Et c'est pour Elena Ferrante rassembler ce qui a fait qu'elle est devenue écrivain, comment elle a écrit. Et son rapport, naturellement, avec les mères, avec les enfants, avec qui est central. Et c'est ce rapport viscéral, qui est un rapport napolitain. C'est-à-dire, on ne comprend pas, alors qu'elle a grisaillé au maximum dans sa tétralogie Naples, encore pire dans l'adaptation cinématographique, si je peux dire, elle donne vie au corps, parce qu'à Naples, il n'y a que le corps qui parle, et c'est le corps des femmes qui parlent dans tout ce qu'elle écrit. Et c'est extraordinaire, c'est une fabuleuse romancière.
On en revient au pouvoir de maîtrise de l'écriture qu'on évoquait avec vous, Véronique Ovaldé, dans la première partie de l'émission, autour de votre roman et de votre désir et votre besoin d'écrire, ces tensions intérieures, ces sentiments contraires, comme vous les évoquez, Jean-Noël Schifano. Est-ce qu'elle va s'appliquer à les maîtriser en les verbalisant? Est-ce que c'est à l'origine de son envie d'écrire telle qu'elle le raconte?
Oui, et puis ça me donne cette impression à chaque fois que je lis un livre d'Elena Ferrante qu'elle s'est lancée dans une entreprise de démystification de la condition du corps des femmes d'abord et de la condition des femmes dans ce que ça implique, particulièrement dans le fait d'être mère. On a souvent des mères qui abandonnent leurs enfants. Donc c'est pour ça que je disais qu'il y a quelque chose d'incorrect chez elle et d'immoral. Moi qui me captive. Et puis il y a le fait que elle revient toujours sur l'inadéquation au monde des femmes, leur illégitimité permanente.
Des mères plutôt, non ?
Des femmes et des mères. Mais parce qu'en fait, ouais. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on a l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de choix, particulièrement dans la tétralogie. On a l'impression qu'en fait, il y a la mama ou la putain, en fait. C'est assez difficile d'avoir un autre type de choix, puisqu'elle répète justement qu'en devenant une intellectuelle, à un moment donné, je ne sais plus dans quel épisode, dans quel tome, elle dit ça, mais qu'en étant une intellectuelle, elle passe du côté des putains, puisqu'en fait, elle rappelle que son frère a été obligé, voilà, de se battre, etc. Donc ça, c'était quelque chose que je trouvais de vraiment vraiment fort. Et puis ce que vous disiez à l'instant, dans l'écriture, il y a cet effort de justesse, et puis dont on parlait tout à l'heure, et puis le fait qu'elle répète toujours que dans le livre, justement dans celui-là, Frantu Maglia, que l'écriture finalement c'est une appropriation indue de ce qui se passe alentour et de chacun des gens qui nous entourent et justement il y a quelque chose là-dedans qui est intéressant dans cette relation entre le lien qu'elle établit entre le privé et le politique. Je me dis que c'est peut-être ça en fait qui est vraiment passionnant chez elle, le fait aussi qu'il y a quelque chose assez sombre finalement chez Elena Ferrante, puisque le constat qu'elle fait de la violence qui est faite aux femmes, aux mères, et de la violence aussi que les femmes s'infligent entre elles. Finalement, il n'y a pas beaucoup d'échappatoire à ça.
Alors, question presque préalable, Jean-Noël Schifano, est-ce que vous l'avez rencontrée, Elena Ferrante ?
Non, mais comme j'ai eu l'honneur, en présidant un jury, le jury du prix Elsa Morante, et de lui décerner le prix du premier roman pour L'amour harcelant, j'ai traduit après, elle en parle déjà d'ailleurs dans les premières pages de Frantumaglia, et donc sa réponse... Et j'ai reçu un mot d'elle, pour moi le jury naturellement, qui était signé de sa main avec Elena Ferrante et au feutre bleu. Voilà, non, j'ai jamais eu de contact, mais je sais depuis toujours que c'est Anita Rai. C'est un homme, même son mari est un très grand écrivain, Domenico Starnone, mais un homme ne peut pas écrire ce qu'elle a écrit. C'est une romancière fabuleuse et qui fait parler le ventre des femmes. Ça va au-delà, parce que toute cette disparition qui est au cœur de son œuvre, c'est une disparition aussi. C'est l'abandon du sexe aussi. Il y a une scène dans L'amour harcelant où la protagoniste se masturbe et elle sent plus son sexe. Son sexe disparaît. Elle sait même plus si elle le touche. Et ça, c'est une disparition du corps. C'est une disparition du corps de la femme. Et surtout quand la femme devient mère. Ce qu'il a requis chez Elsa Morante, c'était le tailleur des mères. Le tailleur des mères qui ne faisait pas des habits pour les femmes, mais pour les mères. Et les mères n'ont plus de corps de femme. Vous voyez, c'est tout ce heurt entre les corps. Et c'est le corps qui parle. Et ça, elle est très napolitaine pour ça. Non pas dans les descriptions, elle ne décrit pas, elle veut un vide autour des personnages, mais dans les réactions et dans le ressenti profond du... C'est le ventre qui parle, même si c'est plus que le corps, c'est le ventre qui parle.
Alors, on a effectivement, c'est un journaliste italien qui a révélé l'existence aussi de ce couple littéraire, celui d'Anita Raja et de Domenico Starnone, comme étant probablement à l'origine de ce phénomène. On s'est demandé si ce n'était que elle qui écrivait ou que lui, voire si c'était pas des romans qui avaient été écrits à quatre mains, en tout cas à plusieurs ou à deux. Sa traductrice en français, Elsa Damien, dit dans Les Échos avoir été marquée aussi par les ruptures de style à l'intérieur de chaque tome, estimant qu'il y avait probablement la marque d'une main féminine dans l'écriture, mais peut-être aussi d'autres, et notamment sur ces passages sur le sexe, sur la maternité, mais peut-être aussi la présence d'une main d'homme.
Je veux dire, je connais aussi bien l'œuvre de Domenico Starnone que celle de Elena Ferrante. Et Elena Ferrante agit seule, c'est vraiment, et ses personnages depuis le début reviennent jusqu'à la fin. C'est-à-dire que cette poupée qui disparaît, il y a poupée volée, on a un titre, poupée volée, les poupées qui disparaissent au début de l'amie prodigieuse sont récupérées à la fin envoyées à la fin, mais ce sont des poupées qui ont été volées par l'ami. Et qui, au dernier moment, ont été reportées. Donc ça, on l'a déjà dans Les poupées volées, un précédent roman. Vous voyez, il y a une continuité. Et puis, elle est née dans ce quartier populaire, à côté de la gare, hein, entre la gare et l'autoroute. Mais Starnon est aussi. Et il se peut très bien qu'en discutant entre eux, etc., où il y a eu des influences orales sur les lieux de la naissance. Mais pour Naples, Starnon l'a décrit tout à fait différemment. Et pour ce souffle féminin, ce souffle très fort de création, il n'y a qu'une femme qui pouvait le faire, et là, c'est Elena Ferrante.
En tout cas, on l'en a sorti de cet anonymat, mais elle n'a pas choisi de le faire. Ce mystère qui a été brisé ou qui l'aurait été par la presse italienne, on peut aussi considérer qu'il peut rester entier. C'est en tout cas son souhait à elle jusqu'ici, oui, rester anonyme, ne pas s'exprimer, ne pas commenter ses livres.
Ses livres disent tout. Mmh, voilà.
Exactement. Sur ce besoin, je vous propose d'écouter les mots du philosophe Pierre Zawi.
Je pense qu'il y a quelque chose de politique dans le sens où c'est admettre que c'est plusieurs qui parlent, c'est-à-dire que c'est d'autres qui parlent, c'est une écriture comme même les grands bâtisseurs de cathédrales au Moyen-Âge, bon, qui étaient quand même la plupart anonymes, c'est tenter de revenir à ça, c'est-à-dire c'est un peuple, c'est le peuple d'une ville qui crée la cathédrale, et c'est pas tel maître d'œuvre, c'est pas tel nom, qui je pense est très nécessaire pour écrire, c'est de laisser parler tout un peuple à travers soi, ou une âme, on parlait des... Alors pour Elena Ferrante, il y a beaucoup d'influence. Je pense qu'elle est quand même très influencée là-dessus. Elle nomme Christa Wolf, elle en nomme d'autres, mais elle est aussi très influencée par ce mouvement des années 60, qui est un mouvement très politique, de disparition de l'auteur, sur la mort de l'auteur, par des gens comme Foucault, comme Barthes. Et là-dessus, par rapport à cette époque-là, aujourd'hui, on est quand même dans une époque de régression considérable.
Un anonymat, en tout cas, qu'elle préserve à travers cette métaphore de la cathédrale. On s'est demandé donc si le roman avait été écrit à plusieurs mains. Si on reste sur l'idée que peu importe, que les livres disent tout, Véronique Ovaldé, elle rappelle aussi que l'identité, son identité à elle, est dans ses livres. Quelle identité lui trouvez-vous, vous, dans l'écriture, comme lectrice, sans connaître l'auteur? Est-ce que vous pensez qu'Elena Gréco, son héroïne, est peut-être un peu aussi le double de l'autrice Elena Ferrante que la part autobiographique, comme lectrice, est-ce que vous la sentez marquée? Vous sentez quelle main écrit?
Alors je vous avoue qu'en fait ça ne m'intéresse pas du tout, en fait. Mais aussi parce qu'en étant écrivain, j'ai une petite forme d'agacement parfois quand on essaye de chercher les liens avec l'autobiographie, particulièrement quand vous écrivez à la première personne, où là évidemment la confusion elle est très 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 rapide.
Donc, c'est-à-dire que vous essayez pas de vous faire une image d'Elena Ferrante à travers ses livres?
Pas du tout, parce que, en plus, ce que je trouve passionnant chez Elena Ferrante, et d'ailleurs elle le dit dans Fantomalia, et cette ambiguïté qu'il y a, où on a l'impression qu'elle s'est peut-être écrit, il y a peut-être un homme qui l'a écrit, ou son mari, ou je ne sais quoi, bon, c'est quand même assez accablant en fait de penser ça, parce que il me semble qu'elle la répète très régulièrement, et c'est ça aussi qui fait la force de ces livres, que finalement l'imaginaire des femmes a été colonisé par les hommes, que je dis vraiment nécessairement, parce qu'en fait, quand vous êtes une femme, vous avez énormément lu les hommes. Ce qui n'est pas tout à fait vrai de l'autre côté. Vous voyez, il y a quand même très peu d'hommes, elle nous le rappelle, il y a très peu d'hommes écrivains qui avouent une influence par un écrivain femme. L'inverse est très très courant. Et donc, cette colonisation qui pourrait être terrible, la colonisation donc masculine de notre imaginaire, en fait, elle devient une force, puisque nous connaissons, nous, l'ordre symbolique masculin. Alors qu'en fait, il reste quand même très, très, je sais pas, très, très mystérieux pour les hommes écrivains. Et hier soir, je discutais avec Alice Zeniter, qui est donc écrivain aussi, et on l'a dit avec beaucoup plus de brutalité encore. Elle me disait, mais en fait, nous, par exemple, nous femmes, en fait, femmes écrivains, on sait tout, en fait, des problèmes d'érection des hommes. Je suis pas sûre que les hommes écrivains connaissent tout des menstrues, par exemple.
Alors, sur la dimension féminine de son écriture, Jean-Noël Schifano, vous avez dit qu'Elena Ferrante était littéraire clairement entre la femme rompue de Simone de Beauvoir et Madame Bovary. Sur l'écriture même des mots, elle dit dans Frantumalia, le problème réside plutôt dans le culte de la belle page aujourd'hui, une caractéristique récurrente que j'ai longuement combattue chez moi. Aujourd'hui, je jette les pages trop écrites, je figure au nombre de ceux qui préfèrent le brouillon au propre. Sur son style, sur la qualité de son écriture, et après on pourrait parler des traductions, il y a toujours discussion. Est-ce que c'est une grande auteure? Est-ce que c'est une auteure populaire?
C'est un très grand écrivain. C'est une très grande écrivaine, puisqu'il faut le dire comme ça. C'est une très grande écrivaine. Et excusez, mais je souhaite qu'une chose, c'est que cette année, elle ait le prix Nobel. Et elle le mériterait amplement. Elle a un style d'une force. Elle écrit et elle travaille son style. Il y a des coquetteries hein, d'auteurs. On dit oui, oh, je laisse couler hein, comme des certains tableaux. Il y a des coulures. Non, pas du tout. C'est maîtrisé d'un bout à l'autre. Ces descriptions aussi bien de rapports entre enfants et femmes. Bon, je peux vous lire. Il y a toujours un moment où les enfants nous disent avec une colère malheureuse « Pourquoi tu m'as mise au monde ?» Elle parle du gouffre d'angoisse des mères. Elle dit se condamner en donnant naissance à un autre organisme. Vous croyez que le mot organisme, elle ne le choisit pas. Et ce lien qui étrangle dès le nid vivant du ventre. Ce lien qui étrangle dès le nid vivant du ventre. Écoutez, c'est une écriture merveilleuse. Je crois qu'elle travaille autant que Flaubert son écriture.
Sur cette déperdition de l'être femme, d'ailleurs, elle se réfère dans cette lettre qu'elle vous avait envoyée à l'occasion de ce prix, oui. Elsa Morente, qu'elle n'est pas venue recevoir de ses mains. Elle parle, hein, d'ailleurs, de ses corps de femme, de ses couturières de mère,
bien sûr.
Aussi.
Tailler un costume, disait Homer, on taille un costume. C'est-à-dire, on fait n'importe quoi. C'est comme si la mère était la lèpre de la femme. Elle le dit ça. C'était tellement le corps de mère disparaît. Alors elle l'a trouvé chez Elsa Morante, qui est son référent. Elle s'est appelée Elena Ferrante phonétiquement, par admiration d'Elsa Morante. Elle avait eu un culte d'Elsa Morante. Et alors que Elsa Morante adore le corps des mères, il y a chez Elena Ferrante et chez ses personnages, il y a un détachement et elle en parle. Elle en parle parfois. Le cloaque arrogant de la tribu napolitaine. Donc il y a des mères.
Du dégoût aussi. Il y a pas seulement.
Bien sûr. Même les femmes enceintes. Alors chez Elsa Morante, il y a une adoration de la femme enceinte. Chez elle, elle voit pas l'extérieur. Elle voit l'intérieur. Elle voit. Elle ne dit pas placenta, mais elle dira bouillie. Etc. Donc il y a une répulsion, mais vous parliez de morale tout à l'heure. La morale, elle s'en fiche complètement. Hein. C'est, et puis nous, on s'en fiche quand on écrit de la morale. Donc il y a pas de morale du tout. Il y a un réalisme fabuleux, et je dis réalisme et fabuleux ensemble. C'est vraiment là la grande fidélité à Naples. C'est vraiment la grande fidélité où les corps sont ex-votés. Toutes les parties du corps hein, sont des parties anatomiques. Les ex-voto à Naples sont anatomiques. Vous avez un cœur, un foie, un bras, etc., une tête et un ventre entier ouvert dans les églises. Ce sont des ex-voto anatomiques. Et elle a vécu son enfance, elle est partie, puis elle est revenue, etc., mais au milieu de cette civilisation napolitaine qui est ex-voté.
Dans un entretien publié dans le Financial Times, publié en 2015, sur l'absence, ou non, loin d'être l'absence, le côté assez sombre, ou négatif, voilà, pardon, des figures masculines dans ses romans, elle raconte « J'ai grandi dans un monde où il semblait normal que les hommes, pères, frères, fiancés, aient le droit de vous frapper pour vous corriger, pour vous éduquer en tant que femme, bref, pour votre bien. Aujourd'hui, de nombreuses choses ont heureusement changé, mais je persiste à croire que les hommes vraiment fiables constituent une minorité, sans doute parce que le milieu qui m'a formée était particulièrement arriéré. Ou peut-être, je penche davantage pour cette seconde hypothèse, parce que le pouvoir masculin, et peu importe qu'il soit exercé de façon brutale ou de façon raffinée, entend encore nous subordonner. Trop de femmes sont humiliées chaque jour, et pas simplement sur le plan symbolique, trop de femmes, dans la réalité, sont punies pour leur insubordination, y compris par la mort. » Véronique Ovalde.
Non, mais bien sûr, je suis alors là-dessus évidemment tout à fait.
Moi aussi.
d'accord avec ce qu'elle dit là, puisque, et d'ailleurs elle insiste beaucoup sur cette affaire, justement, comme on disait, l'affaire du ventre, l'affaire des tripes, et de ce qu'on disait à l'instant sur la colonisation donc de nos esprits, nous femmes, par les hommes, par cette domination planétaire. C'est ça qui est quand même assez extraordinaire. Et puis il y avait quelque chose quand même aussi chez Elena Ferrante qui est très très fort, c'est cette introspection, par exemple dans la tétralogie, l'introspection permanente de Lena, qui est une introspection ambiguë, une introspection parfois un peu complaisante et qui ne nous rend pas tout le temps sympathique. Et c'est plein d'embardés. Et ça, cette façon qu'elle a d'ausculter finalement et de ventre des femmes et la façon dont son esprit va fonctionner, c'est une, je sais pas, ça confine parfois à une forme de génie.
Et alors, comment est-ce qu'elle le raconte à travers cette amitié entre ces deux héroïnes, entre Elena et Lila, une relation assez compétitive, oui, aussi, même si elle reste fusionnelle. Elle en dit d'ailleurs dans ce livre sur son processus d'écriture, Frantumalia, elle écrit « La compétition entre femmes n'est valable que si elle exclut tout désir de prévaloir ». Elle parle de cette amitié-là. Qu'est-ce qu'elle nous dit de la solidarité aussi entre les femmes, des relations qu'elles peuvent entretenir aujourd'hui à travers cette amitié pour vous, Véronique Ovaldé?
Oui, et bien justement, ça revient à cette affaire d'ambiguïté, cette histoire d'ambiguïté, parce qu'il y a une grande compétition entre ces deux petites filles d'abord, et puis ces deux jeunes femmes mûres. Et donc cette compétition, elle est très forte, elle est très importante, et les femmes se comparent tout le temps les unes aux autres. Elles se comparent parce qu'en fait, on est comparées en permanence. Et donc je pense qu'en fait on reprend tout le temps cette mauvaise pente de se comparer les unes aux autres, et c'est cette violence dont on parlait tout à l'heure, la violence des hommes sur les femmes et la violence des femmes entre elles. Il y a à la fois solidarité, c'est évident, on le voit dans la tétralogie, il y a une grande forme de solidarité, d'amour entre ces femmes, et de il y a une sorte de camaraderie très forte, très belle, magnifique, et en même temps il y a cette violence, ce désir parfois de destruction de l'autre.
C'est une romancière, Jean-Noël Schifano, napolitaine.
Oui.
Et en même temps, vous disiez, elle a gommé tout ce qu'il y avait de napolitain dans sa langue.
Oui, c'est un choix. Hein. Elle a gommé, disons, les mots napolitains quand deux personnages, surtout les pères et les hommes, se mettent à hurler, même les mères aussi, car il y a des mères qui sont très violentes. Il y en a une dans Poupée volée qui frappe son enfant. Elle supporte plus ses deux filles. L'enfant pleure. Elle continue à lui donner des gifles. Elle pleure. Elle continue à lui donner des gifles. Et elle se sépare de ses filles pendant 3 ans, sans rien dire. Donc il y a une espèce, ce heurt est fabuleux. Quant à la langue, elle a choisi de gommer la langue napolitaine au profit de la langue, disons, toscane et nationale. Hein. C'est un choix, c'est le refus, disons, entre guillemets, du folklore. C'est le refus, c'est qu'elle veut aller tellement dans la façon, comme vous le disiez, d'ausculter le ventre des femmes, leur désir, veut tellement aller en avant qu'on va jusqu'au mythe. Ce qu'on n'a pas remarqué, c'est que dès le premier livre, la fille, la mère disparaît, la disparition est fondamentale dans tous les livres d'Elena Ferrante. Mais la mère disparaît, la police avertit la fille que la mère se trouve sur une plage à Minturno, au nord de Naples, et elle découvre sa mère morte sur la plage avec un soutien-gorge tout neuf. Nu, avec un soutien-gorge neuf. Et c'est simplement, alors le soutien-gorge permettra de remonter d'une façon policière, etc. Ce qui est important, c'est ce cadavre de femme sur la plage. C'est exactement ce qui arrive à Parthénope, à la fondation de Naples. Donc on touche ici à la sirène, à tout ce qui fait... Alors elle fait entrer le mythe à sa façon et d'une façon très puissante. Parce que elle fait entrer l'histoire aussi. L'histoire qui a tout gommé depuis 1860 à Naples. C'est-à-dire cette unité d'Italie qui a été une colonisation de l'Italie du Sud, a gommé l'histoire. Donc on a l'histoire avec un grand H qui disparaît Et on a l'histoire des personnes et des femmes qui se rebellent.
Alors sur la géographie de son œuvre, sur la temporalité aussi de cette œuvre, celle de l'amie prodigieuse, sur l'importance de Naples, je vous propose d'écouter les mots de Tita Fiore, qui est journaliste littéraire, ou qui l'était à ce moment-là, en 2017, quand elle témoignait pour une histoire particulière.
En quelques 1600 pages, elle trace non seulement une cartographie physique, mais également temporelle, historique, des transformations de la ville. Le premier livre se déroule dans les années 50. Et tout part d'un quartier périphérique constitué de petites maisons basses, construites sur des marais. Et lorsqu'elles grandissent et qu'elles sont adolescentes, avec un groupe d'amis, elles font une incursion dans le centre-ville pour voir comment on vit dans cette autre partie de la ville, comment vit une autre classe sociale, comment on vit dans les quartiers bourgeois. Et leur ambition, à l'une et l'autre, c'est de pouvoir un jour vivre dans les quartiers bourgeois.
Nei libri successivi ci arriveranno, prenderanno casa lì, attraverseranno.
L'une d'elles y parviendra, et ce faisant, à travers son parcours, on voit les évolutions sociales, quotidiennes et historiques de la ville.
E quindi ecco tracciata la carta geografica, ma torniamo al fascino della scrittura. Cosa accade alla fine?
Et ce qui participe de la fascination che provoque ces livres, c'est ce che nous apprend le dernier tome de la quadrilogie. À la fin, les deux femmes retrouveront les poupées qu'elles avaient perdues dans leur quartier d'origine dans le premier livre. Et là, on se retrouve face à la fascination que provoque une écriture circulaire. Parce qu'on part de ce quartier, on arrive au quartier bourgeois et on y retourne tout à fait mystérieusement. Et c'est un voyage à travers l'âme humaine, autour de l'âme. Une des filles disparaît, l'autre raconte. Et entre cette disparition et le récit, les retrouvailles, il y a un mystère, parce que de fait, la vie et l'âme sont mystérieuses.
Il y a aussi dans l'amie prodigieuse, Véronique Ovaldé, quelque chose qui relève de la fin de l'enfance ou de la trahison de soi. On évoquait la question de l'émancipation aussi, le fait de se sortir, de s'extraire de son milieu, d'avoir ce boulot intellectuel qu'elle va exercer, l'écriture aussi derrière. Dans ce retour dans la ville, dans cette boucle, c'est l'enfance qu'elle met derrière elle.
Oui, c'est l'enfant sans doute qu'elle met derrière elle et il y a cette tentation d'échapper. Et tout à l'heure, je parlais des embardés de sa pensée à Lena, donc la narratrice, et elle fait continuellement des embardés, elle fait continuellement des échappées et elle tente cette disparition permanente, elle tente l'abandon. Et il y a quelque chose, l'autre fois je lisais dans le livre, le dernier livre là, qui vient d'être publié chez Gallimard, elle disait que son fond le plus secret et le plus incontrôlé joue des coudes avec les bonnes lectures et les convictions adéquates. Et je me suis dit, c'est exactement ça, en fait, qui donne le tranchant de la vérité qu'il y a dans les livres de Ferrante et du coup de sa relation propre à l'enfance, à cette métamorphose qui est l'adolescence, cette métamorphose donc dans ce giron, j'allais dire, ce giron masculin d'ailleurs, ce giron napolitain. Donc c'est quelque chose qui est très fort en fait dans cette tétralogie.
Alors elle dit ou elle écrit aussi, et on peut retrouver ces mots dans Frantumalia qui vient de paraître donc chez Gallimard, où elle revient sur la place de l'écriture pour elle dans sa vie. Aussi, elle dit, je me donne toujours deux objectifs lorsque j'écris, raconter tout ce que je sais et accueillir dans l'histoire tout ce que je ne sais pas, tout ce que je ne comprends pas. J'ai poursuivi ce second objectif jusqu'à l'obsession dans l'amie prodigieuse. Jean-Nel Schifano, il nous reste quelques minutes, il faut quand même aussi comprendre pourquoi ce succès italien, cette tétralogie de l'amie prodigieuse a aussi passé les océans, les frontières et a été un tel succès mondial. Parce qu'il y a pour vous aussi ces thèmes qu'en fait elle aborde, qui sont assez universels, l'amitié, le patriarcat, la féminité, l'amour, la pauvreté, l'éducation ou même encore l'enfance qu'on évoquait à l'instant. Ça explique peut-être en partie son succès américain, succès dont on dit qu'il a été aussi une bonne réussite marketing, mais c'est peut-être toujours ce que les jaloux disent, mais autour de cette saga, il y a eu des relais dans la presse très puissants, des recommandations de grands noms de la littérature anglo-saxonne, comme Jonathan Franzen ou Zadie Smith. Et puis une traduction réussie, vous l'avez lu, vous, la traduction d'Anne Goldstein en anglais ? Vous avez regardé les différentes traductions?
Non, non, mais la traduction française, moi je salue Elsa Damien, que je ne connais pas. Les traducteurs et traductrices ont un mérite formidable. Et ce que je voulais dire simplement une chose, c'est que Elena Ferrant a déclaré récemment « Le corps épouse le mouvement des mots ». Et je dirais que chez elle, c'est un peu un masque, parce que chez elle c'est un peu le contraire. C'est-à-dire le mouvement des mots épouse le corps. C'est vraiment le corps qui est à la aux commandes, quoi. C'est vraiment le et ce qu'est le succès de, je crois que c'est les trois quarts des lecteurs sont des lectrices, si on en parlait. Ce sont des livres où les femmes nous sont données dans leur totalité. Hein, aussi bien dans le sang des menstrues qui coule le long de la jambe au moment de l'enterrement de la mère que dans les rapports entre grand-mère, mère, les rapports les de chair que toute mère peut avoir avec ou refuse d'avoir avec le bébé qui naît. Hein. Donc c'est ça, c'est très fort.
C'est l'auteur pour femmes.
C'est un univers. Non, pas du tout. Bon. Moi, j'adore. Jusqu'à preuve du contraire, je suis pas trop femme. Mais on l'est tous un peu, les hommes. Mais voilà. Mais ce que je veux dire, c'est merveilleux. C'est un univers extraordinaire. On a le nez dans la réalité. On a le nez vraiment. Et puis on sent, on touche, on entend. C'est d'une sensualité universel.
Alors, si extraordinaire et si sensuel et si universel que France Culture a choisi d'en faire un feuilleton produit et diffusé, ce sera le 6 mai prochain, réalisé par Sophie Haute-Picon, adapté par Victoire Bourgeois, d'après les deux premiers tomes du roman de l'amie prodigieuse. Et c'est Amira Kazar qui est la narratrice. Je vous propose d'en écouter un extrait.
Devant la porte de Nakile, mon cœur battait très fort. Je l'entendais dans mes oreilles. Mais je me consolais en me disant que c'était aussi le bruit du cœur de Lila.
Mais qu'est-ce que vous voulez?
Les poupées.
Quelles poupées?
Les nôtres.
Bon.
Vous les avez prises dans la cave.
Minou, c'est toi qui as pris la poupée de la fille du cordonnier?
Non, papa, c'est pas moi. C'est vous qui les avez prises, on vous a vu.
Ah. Vous m'avez vu?
Oui, et vous les avez mises dans votre grand sac noir. Oui, oui.
J'ai pris vos poupées et je les ai mises dans mon grand sac noir. C'est ça?
Oui.
Donaki les porta sa grosse et large main à la poche revolver de son pantalon. Nous nous serrâmes très fort la main, nous attendant à ce qu'il en sorte un couteau. Mais c'est un portefeuille qu'il en tira.
Allez-vous les acheter, vos poupées?
Allez, on y va.
Et rappelez-vous que c'est moi qui vous les ai offertes.
Extrait du feuilleton produit et diffusé sur France Culture, ce sera à partir du 6 mai, avec la voix d'Amira Kazar, qui est donc la narratrice dans cette amie prodigieuse version radio. Un grand merci à vous, Véronique Ovaldé, d'avoir passé cette grande table entière à nos côtés. Merci beaucoup à vous, Jean-Noël Schifano, d'être venu nous parler du phénomène Elena Ferrante. Je rappelle que vous avez été le premier traducteur de l'amour harcelant, de son premier roman paru en français, que vous avez aussi beaucoup appuyé cet auteur alors inconnu chez Gallimard, qui édite aujourd'hui ses écrits sur l'écriture. Elena Ferrante, Frantumalia, c'est à trouver donc chez Gallimard dans la collection du Monde Entier. Un grand merci à toute l'équipe de la Grande Table qui a préparé et programmé cette émission, à Maya Neskovic et Laura Dutèche-Pérez pour la Grande Table des Idées, Oriane Delacroix et Henri Leblanc pour la Grande Table Culture, avec l'aide précieuse, très très précieuse, de Mathilde Tonfourcade et d'Antoine Suzarelli. À la réalisation aujourd'hui, c'était Milena Elig avec Sonia Le Glen et Alex Dang à la technique. Très bel après-midi à tous et très bon week-end sur France Culture.